Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Bien sûr, je me présente, mon nom c'est Claudio Ruff Escobar. Je suis moitié suisse, moitié chilien. Bon, j'ai vécu toute ma vie au Chili, j'ai fait mes études aussi en Suisse, donc à l'université de Genève. Et aujourd'hui, je suis le recteur de l'université O'Higgins. Mais auparavant, j'étais le vice-recteur de finances de l'université, donc je connais très bien le secteur tertiaire universitaire de mon pays, parce que j'ai passé dans ce côté de la gouvernance les 22 dernières années. Et j'ai participé dans le processus de changement de l'éducation du pays les 10 dernières années. Parce qu'on a démarré avec un processus 2012 qui a fini avec de nouvelles lois en 2018. Je suis un acteur qui a vécu ça et je suis très content d'être ici comme prof, bon, et aussi comme recteur, parce qu'après le recteur m'a invité ici pour faire connaissance de l'université.
Avec la sécheresse chronique, l'accaparement de l'eau, comment le Chili fait-il face aux nouveaux défis écologiques?
Oh, c'est une bonne question. Écoutez, ouais, c'est vrai, on a un grave problème avec les sécheresses. Et le problème de l'eau. Mais il faut faire bien attention parce que on a des études un peu oubliées à la fin du 19e siècle. À Benjamin Vicuña Mackenna, on lui a demandé de faire une étude parce que il y avait des problèmes de sécheresse dans le pays. Hein. Donc il a fait un travail depuis la fondation de Santiago du Chili, hein, 16e siècle. C'est-à-dire un travail de 300 ans. Il a pu constater quelque chose d'important. Les sécheresses dans le pays, au moins au Chili, ils sont des siècles. C'est-à-dire des siècles de 5 ans, il a trouvé 10 ans, 15 ans, et les pires, 20 ans de sécheresse. Donc, il faut tenir compte à ça pour le meilleur analyse. De cette manière-là, on ne perd pas l'espoir d'avoir de la pluie. Oh, beaucoup de pluie dans les prochaines années parce qu'aujourd'hui on est de l'année numéro 12, hein, de sécheresse. Donc, premièrement ça, deuxièmement, c'est vrai que le changement climatique, il touche partout, pas seulement le Chili, dans notre cas c'est la sécheresse, la manque d'eau, mais on peut voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe autour du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Troisièmement, aujourd'hui, à l'université, Bernardo O'Higgins, je suis le recteur, et on a un centre de recherche hydrique. On travaille dans un modèle pilote pour le pays, qui on le connaît avec le acronyme de MARS. MAR. C'est un management d'un aquifère sous la terre. Alors, je le fais entre anglais et français. C'est-à-dire, mais ce n'est pas quelque chose que nous, de nouvelle dans le monde. Hein. C'est-à-dire, on utilise ça en Europe, par exemple. On introduit de l'eau au moment qu'on a la pluie, on introduit de l'eau sous la terre, dans les nappes phréatiques, et on garde l'eau en bas. Au Chili, on n'a pas aucune expérience sur ça, mais à l'université de le centre de recherche, on travaille aujourd'hui pour faire le premier pilote, n'est-ce pas, comme je viens de dire. Donc, pour voir de quelle manière on peut commencer à garder dans le futur l'eau sous la terre. Ça, c'est une bonne expérience. En Europe, par exemple, à Berlin, les Allemands utilisent à Berlin 70% de l'eau qu'ils utilisent pendant toute l'année, c'est gardé sous la terre pendant le jour, le moment de beaucoup de pluie. Je suis dans le quatrièmement, cinquièmement, je suis dans l'Amérique latine, donc je veux dire que ça. C'est pas une nouveauté de 100 dernières années. La civilisation Nazca, dans le sud du Pérou, ils avaient créé, dans les années 400 à 600, les Puquios. Eux aussi, ils avaient problème de l'eau. Donc, ils gardaient dans ce système, je vous laisse le nom pour que vous puissiez chercher sur Google quels sont les phénomènes du Puquios. Hein? Comment la civilisation, à quelle époque-là, 1500 années en arrière, ils gardaient aussi de l'eau sous la terre. Et pour finir, dans l'Orient prochain, quelques populations, ils avaient les canats en plus pour garder l'eau sous la terre. Donc, conclusion, les anciennes techniques sont mises en place aujourd'hui avec beaucoup et meilleures technologies pour faire des solutions à des problèmes qu'on a vécu, à mon avis, au long de l'histoire de l'humanité. Donc, merci.
Vous avez parlé d'économie tout à l'heure. Comment le Chili peut-il améliorer son économie, améliorer le niveau de vie de sa population, tout en protégeant son écosystème ou ses écosystèmes?
Oui, l'histoire du développement du pays est très attachée à des politiques de changement du modèle économique pour, premièrement, avoir une croissance économique qui a démarré dans les années 70, hein, tout au début de la dictature, hein, mais qui a commencé à être avec une majeure maturité dans les années 80, après dans le retour de la démocratie des années 90. Oui, fortement avec des politiques, je dirais politiques publiques, mais plutôt politiques d'État. Politiques d'État qui ont traversé les différents gouvernements. Par exemple, le commerce extérieur du Chili, c'est une chose que traverse le gouvernement, c'est-à-dire il n'y a pas de question. Une ouverture commerciale pour augmenter les exportations, pour augmenter la croissance. Et aujourd'hui, le principal défi qu'on a, n'est-ce pas, c'est quels sont les points faibles pour avoir un sérieux développement de pays. On travaille sur ça. Ce sont les défis de ce gouvernement aujourd'hui, peut-être aussi le gouvernement antérieur, n'est-ce pas? Mais c'est un défi pour le futur. C'est-à-dire la société chilienne, dans sa gouvernance, doit beaucoup réfléchir de quelle manière on va arriver au développement du pays et en sauvegardant le côté vert. Hein, avec le compromis qu'on a comme pays, comme société, avec les 17 ODS d'ici 2030, au 2030.
On va parler d'éducation puisque c'est votre expertise, mais avant tout, j'aimerais qu'on s'arrête sur les tensions sociales qui traversent le pays, et encore, c'est à fait l'actualité. Quelles sont les causes de ces tensions?
Merci de la question. Je viens parler sur ça et j'ai mis le point dans la moitié de ma présentation. J'ai dit surtout pour les étudiantes que c'est un point de recherche, parce que c'est vrai qu'on n'a pas finalement la réponse. J'ai fait une réflexion tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays du Maghreb et dans l'Orient, n'est-ce pas? Par rapport à la crise du printemps arabe en 2011. Il y a une similitude, à mon avis, de ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Amérique latine, qui a démarré au Chili le 18 octobre de l'année 2019. Parce qu'après ça, on a eu beaucoup de tensions dans différents pays, même jusqu'à aujourd'hui. La semaine passée, à Panama, on a pu voir beaucoup de tensions sociales dans les rues. Je pense que, à mon avis, c'est que les sociétés en général, on n'a pas toutes les solutions à la fin du jour quand on a seulement de la croissance économique. Vous venez de poser la question sur le développement. Le développement, c'est super important. C'est-à-dire, on doit faire attention à je sais pas, plus de 200 variables que les Nations Unies, ils ont mis dans la table, pour voir quels sont les points qu'on doit sauvegarder pour avoir un vrai développement. Donc, mais on peut les nucléer, ces variables, en quatre variables. C'est la croissance économique, le PIB, vers 5% peut-être, oui. La démocratie. Et quand on parle de démocratie, ce n'est pas seulement avoir des élections pour les différents gouverneurs ou les dirigeants. C'est la démocratie et la gouvernance, dans ce sens, beaucoup plus étendue, une gouvernance sérieuse, sans corruption, avec un transfert de pouvoir de libre élection dans la population, de quelle manière on puisse avancer dans une démocratie plus directe. Ça, c'est peut-être un défi pour les pays. Troisième point, l'éducation, la formation des professionnels, la formation des techniques, des techniciens, la formation des chercheurs, dans tous les niveaux. De quelle manière, dans cette société, comme troisième point, l'éducation, on va solutionner le problème de l'analphabétisme fonctionnel. On a un analphabétisme fonctionnel aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec cette révolution 4.0 qui change les choses tous les jours. De quelle manière donc la population va être plus capable, plus préparée pour faire face à ces défis? Et quatrième point de cette méga variable pour le développement humain, c'est la santé. Mais pas la santé, comme je viens de dire, pas la santé seulement d'avoir un centre médical pour y aller, quoi. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens holistique. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'il y a une traçabilité de ce qu'on mange aujourd'hui? De quelle manière on va nous guérir? On va avoir de la bonne santé dans le sens ample de la conception de cette parole-là. Donc ça, moi je pense que ce sont les défis qu'on a. Et transversalement, l'éducation, il est partout. Donc c'est pour cela qu'on a beaucoup pris en charge cette question et au Chili et en plus à notre université.
Alors de l'éducation, parlons-en. Selon vos données, vos propos, 60% des Chiliens accèdent aujourd'hui à l'enseignement supérieur. Alors déjà, est-ce que c'est un bon taux?
Oui, on a un très bon taux. Pas le taux de la Suisse. Hein. 90% de la population en Suisse, ils ont passé de l'éducation supérieure. Nous, au Chili, on a le 60%. Mais on est sur la moyenne de l'OECD, donc on est très contente, on a une satisfaction importante par rapport à ça. Et surtout parce que, il faut le dire, hein, dans les années 60, moi je suis né dans les 62, donc à cette époque-là, la taux de couverture c'était 2%. Et en 1981, au moment de la libéralisation de l'éducation au Chili, on avait un taux de 10 ou 11%. Donc, on a beaucoup fait avec une grande coopération du secteur privé. Parce que c'est vrai, il faut le dire, que l'État n'est pas capable, dans les pays pauvres, dans les pays en développement, d'arriver avec sa capacité pour donner la formation et l'éducation dans tous les niveaux, d'une bonne manière. Donc le côté public, le côté privé, il a joué un rôle important, très important dans le Chili. Donc, et validé aussi en plus dans tout le monde avec dans les différentes conférences de UNESCO 2008-2009, hein, selon laquelle l'éducation en général c'est un bien public. Donc n'importe si elle est donnée par l'État ou donnée par un particulier.
Votre université, comment est-elle financée? Quelle est la part de l'État? Quelle est la part du privé? Quel rôle jouent les entreprises privées au Chili dans l'attractivité, le développement des universités, de l'enseignement supérieur?
Bon, aujourd'hui, les entreprises jouent un rôle très faible. Dans la formation supérieure. Aujourd'hui, on a, comme je viens de dire, on a continué un processus de maturation de la formation supérieure du pays, n'est-ce pas? Parce qu'on a des universités de l'État, universités privées traditionnelles qui viennent du 19e siècle, hein, comme celle catholique, celle de Concepción, celle d'Austral de Valdivia, début du XXe siècle, et après les nouvelles universités privées depuis 1981. Donc, mais toutes les universités au Chili, ce sont du côté légal, n'est-ce pas, du côté juridique, on a des corporations, des fondations privées ou publiques, hein, qui seront au devoir, n'est-ce pas, au compromis qu'on a vers la formation supérieure. Donc, et en plus, sans fin lucrative. Ça, c'est important. Du moment qu'il a été qui a changé la loi en 1981, il a été établi ça. Donc il faut être bien clair ça. Donc aujourd'hui, les universités, même de l'État ou privé, on reçoit via budget de l'État, on reçoit de l'argent, n'est-ce pas, public. Donc c'est pour cela qu'on a un compromis fort d'accomplir avec le défi que nous pose l'État chilien. Quoi. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les résultats, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui on a 47 universités dans le pays qui sont certifiées, ça c'est important, accréditables, accréditées. C'est obligatoire l'accréditation au Chili. Toutes les universités, même publiques, de l'État, privées, doivent passer par une agence de la qualité. De 47 universités, 40 universités dans le pays, nous sommes dans le ranking de Chimago. C'est-à-dire, nous sommes des universités de recherche. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'Amérique latine et Caraïbe, au niveau par tête, on a le plus haut niveau de publication dans des revues Scopus ou OS. Et on démarre dans une forte application pour avoir de brevets d'invention et d'innovation. Donc, c'est-à-dire, le défi de la révolution 4.0, il est là. Donc, les universités chiliennes agissent dans cette voie.
Quelle passerelle peut-il y avoir entre l'université de Guyane où nous nous trouvons en ce moment et la vôtre?
Moi, je pense que chez nous, on a l'université O'Higgins, on a 10 centres de recherche. C'est important ça, parce que ce sont des recherches qui ont été créées par l'intérêt public du développement du pays. Je viens de parler, on a créé au Chili, dans les années 80, 10 ou 12 clusters de production, n'est-ce pas? Donc, nos centres de recherche à l'université, ils sont absolument liés par rapport à plus ou moins ces types de clusters. Donc, premièrement, ça. Donc, on a une expérience, une expertise qu'on peut transférer vers la Guyane dans un de ces secteurs, par exemple. Moi, j'aime bien l'agriculture, peut-être parce que je suis né dans un endroit du pays où à la campagne, et j'ai pu voir le changement. Dans le cas de mon père, qui était agriculteur traditionnel, il avait appris l'agriculture de son père et son père de son père. Et moi, j'ai fait des études supérieures, je n'ai pas retourné à l'agriculture. Mais j'ai pu voir un changement extraordinaire dans les années 80-82, une politique publique, un ministre d'agriculture au Chili, nommé Jorge Prado. Et il a fait un changement extraordinaire du côté de la manière de faire la production agricole dans le pays. C'est-à-dire, on avait une méthode traditionnelle avec des agriculteurs très traditionnels qui étaient toujours le patron de sa vérité, n'est-ce pas, vers une agriculture très technologisé aujourd'hui. Mais il a changé dans cette époque-là. Je vais vous donner un exemple. Mon père, il était agriculteur producteur du blé. Donc, dans les années 80, quand il produisait à la fin dans la récolte 10 quintals, par hectare, il était très content. 4 années en arrière, il a pris la retraite. Mais avant ça, de faire sa retraite, il ramassait 100 quintaux par hectare. Donc, avec ce numéro, je vous montrais, dans ce côté-là du pays, dans ces coins de l'agriculture, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la technologisation du pays. Donc, dans ce sujet-là, moi, je pense que dans l'Amérique latine en général, parce que c'est la FAO qui a dit, il a une projection vers les 50 années, les prochaines 50 années, le producteur des aliments dans le monde, ça serait l'Amérique du Sud. Donc on a une opportunité de travailler, de faire ce transfert technologique de ce qui se passait au Chili, du côté de l'agriculture, vers Guyane. Par exemple.
Deux dernières questions. Dans quel cadre s'inscrit votre présence ici en Guyane et quelles sont vos impressions sur le département, sur la Guyane?
Bon, écoutez, je me dis ici, j'étais invité comme prof comme économiste pour être le rapporteur d'une thèse doctorale qu'on a fait hier, j'ai intégré le jury et on a fait la présentation, mais j'ai amené avec moi une petite équipe pour faire le lien entre l'université O'Higgins et l'université de Cayenne. Pourquoi? Parce que l'université O'Higgins, il est dans le même réseau que l'université de Cayenne, c'est-à-dire l'AUF, l'Association des universités de la francophonie. Donc, un réseau, je vais le dire, un réseau très actif dans tout le monde, particulièrement sur l'Amérique du Sud. On participe beaucoup de la part de notre université à travers ce réseau, l'Université de Cayenne aussi. Donc, on échange des étudiants, on échange des administratifs, on échange des académiques. Donc, pourquoi pas le faire avec une région du pays francophone le plus proche que du Chili? C'est la Cayenne. C'est l'Université de Cayenne. Donc, on a l'intérêt d'établir des liens forts dans ce changement et aussi dans la recherche. C'est pour cela que j'ai une vidéo, j'ai amené une vidéo ici. Si vous voulez, je peux lui donner à vous, parce que vous pouvez le reproduire dans la radio. Qu'est-ce qu'on fait par rapport dans tous ces centres-là et qu'est-ce qu'on peut faire ici avec l'université? La deuxième part de la question, c'est quelle impression j'ai? Je suis étonné, parce que, ou surpris, de trouver la France ici. Avant d'arriver ici, j'ai passé par Suriname, Paramaribo, j'ai fait la voie terrestre et maritime, parce que j'ai vécu l'expérience de la traversée dans une pirogue. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois ici. Hein. J'avais fait ça au Pérou quelques années en arrière. Donc, bon, trouver les baguettes françaises ici, hein, trouver des Français ici, de personnes qui parlent français, avec beaucoup de quelque chose traditionnel, mais avec une différence culturelle que c'est très particulière et extraordinaire en plus. C'est la région de Cayenne, c'est la région de Guyane, qu'on le sent, qu'on le voit, qu'on peut le goûter. Donc, j'ai bien mangé tous les jours. Les gens sont extraordinaires en plus, sympas et dialoguants, parce que moi, j'aime bien parler avec tout le monde. Du moment que j'ai pris la pirogue, j'ai commencé à parler avec les gens qui étaient là-dedans. Donc, c'est la meilleure manière de connaître un pays, de connaître une région. Et c'est de la même manière que j'invite les Guyanaises, la personne d'ici, qui puisse visiter le Chili. Donc, on appartient à la même civilisation. Hein, on est la civilisation latino-américaine. Donc, on a beaucoup de points en commun entre nous tous.
Merci beaucoup pour cet entretien.